Au Capimba pour tout en ce week-end, nous sommes à Bouta dans la province orientale grâce à notre partenaire sur place, la radio Ruby. Et aujourd'hui, nous nous entraînons avec Patrick Iergu qui est président du conseil de gestion de cette radio, la radio Ruby. Bouta nous reçoit aujourd'hui, Bouta chef près du district de Bazouélé, un territoire de la province orientale situé exactement à 325 km de Kisangani. Alors Patrick...
Oui, je t'écoute.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Bouta, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, merci de la parole, Karim. Pour ceux qui ne connaissent pas Bouta, il faut qu'ils sachent que Bouta a un triple statut politico-administratif. En tant que cité, et puis chef lié du territoire de Bouta, et enfin chef politique de Bazouélé. Elle se situe pratiquement au centre sud du territoire de Bouta. L'un des territoires du district de Bazouélé, que le district à soi, qui n'a de plaise, compte six territoires, dont nous avons le territoire d'Akéti à l'ouest, qui fait la limite juste avec la province de l'Équateur. Nous avons le territoire de Bondo, au nord-ouest, qui fait la limite avec la République centrafricaine. Et nous avons le territoire de Tango, dans le Grand Nord, qui fait aussi la frontière avec la République centrafricaine. Nous avons le territoire de Bambessa, à l'est du territoire de Bouta, et le territoire de Poko, qui fait la limite avec le district de Haute-Ouélé, à l'est quoi.
Oui, alors ça c'est...
Alors, les départs, par rapport aux habitants, c'est une cité cosmopolite parce qu'on trouve pratiquement... plus de 10 tribus qui habitent dans cette cité. On peut citer les Azandé qui sont majoritaires, les Boa, les Kéré, les Ngwandi, il y a les Nandé aussi, les Logo, les Zalou, les Ema, les Lendou, et que sais-je encore. Voilà, ça c'est par rapport aux habitants qu'on trouve ici dans la cité de Bouta.
Oui, alors Bouta, située à 325 km de la ville de Kisangani, la première ville de la province orientale. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre à Bouta? Je voulais savoir s'il y a des sites touristiques.
Ok, merci Karim de cette question. Ici à Bouta, le premier que vous pouvez retenir, c'est l'aéroport, l'aéroport de Zega. Si malgré le temps dur que le pays a traversé, au moins ça a gardé son aspect. Nous pouvons retenir aussi les sites touristiques de l'Epoudungu. L'Epoudungu, c'est une chute sur la rivière Ruby. Cette chute se trouve à 60 km à l'est de la cité. Un site très intéressant qui, autrefois, d'ailleurs, pour les touristes, y arrivaient. Mais depuis que le tourisme n'est pas sorti, c'était un site inexploité. Et nous pouvons retenir aussi le centre de Soukissa. Là, c'est juste un domaine réservé de l'IGSM, et qui aussi pour le moment n'est plus opérationnel, quoi. Que après les événements malheureux qu'a connu le pays, tous les agents là sont partis, et jusque là je pense qu'ils n'ont pas repris. Là on pouvait trouver les animaux et les boiras tels qu'Afromondia qu'on trouve dans cette réserve là. C'est ça, Karim.
Ok, alors nous retenons donc le site, il y a l'aéroport et puis il y a ces chutes qui sont situées à 60 km à l'est de la cité. Mais déjà, l'aéroport, c'est clair, hein, déjà quand on débarque à Bouta, forcément qu'on passe par l'aéroport, donc on voit nécessairement ce qu'il y a.
Et tout à fait, tout à fait.
Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous classez l'aéroport parmi les sites à visiter? Vous pensez que l'aéroport de Bouta est mieux construit par rapport aux autres aéroports de la province, si pas la RDC?
Effectivement, moi, j'ai déjà été à Ndjili, j'ai déjà été au port de Goma, j'ai été à l'aéroport de Kisangani. Personnellement, l'aéroport de Bouta occupe une place de choix. C'est un aéroport qui garde vraiment un aspect acceptable.
Mais quand vous dites un aspect acceptable, excusez-moi de vous pousser un tout petit peu, est-ce que c'est possible que vous nous décriviez justement cet aspect acceptable-là? Bon, parce que moi, je me dis, un aéroport reste un aéroport. Bon, qui plus est, se trouve à Bhouta. Bon, on aimerait savoir, c'est quoi la particularité de cet aéroport de Bhouta?
Ok, là, c'est un aéroport qui a une piste de 4 km au total. La piste reste encore vraiment très bon état. Si je tiens à vous le dire, c'est parce que la plupart des visiteurs qui arrivent à Bhouta sont quelque peu étonnés de voir un aéroport de cette calibre ici à Bhouta. Parce que entendre parler de Bhouta, c'est comme si se trouvait dans un milieu vraiment perdu où on ne pouvait pas s'attendre à rencontrer un aéroport de cette calibre.
Okapi. Radio Okapi, un partenariat entre la Mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle,
avec l'appui des gouvernements suisses, britanniques, canadiens, suédois, hollandais et français.
Okapi.
Patrick Yerglou, je rappelle que vous êtes président du conseil de gestion de la radio Ruby. Nous sommes à Bhouta aujourd'hui où se trouve votre radio, la radio Ruby qui est en partenariat avec Radio Okapi. Et grâce à vous donc nous découvrons Bhouta aujourd'hui dans la province orientale à 325 km de Kisangani. D'emblée, j'aimerais savoir, c'est vrai que Bhouta c'est en province. Et comme on sait toujours, hein, c'est vrai qu'on a une idée assez erronée de province. Là, ici à Kinshasa surtout, la plupart, en tout cas pour certains Kinois, quand ils entendent dire province, ils disent bon, village, ils pensent à un village. Est-ce que vous pouvez nous dire que Bhouta est loin d'être un village et que Bhouta est quelque part en tant que cité à certains bâtiments, à des quoi être fier?
Ok, oui. Enfin, Bhouta, c'est une cité qu'on peut qualifier de centre extra-coutumier. Hein, oui, en réalité, nous trouvons entre les villages et la ville. Moi, il y a des constructions en dur, donc majoritairement laissé par les colonisateurs. Mm-hmm. Et nous-mêmes, fils du milieu ou congolais, nous n'avons pas encore eu des moyens pour construire, c'est pour qu'elle soit moderne. Mm-hmm. C'est ça, même quand vous circulez à travers la cité, vous trouvez encore la plupart des maisons, c'est matériaux fortune, quoi, c'est ça.
Et quand vous dites matériaux de fortune, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement?
Ah oui, c'est disons non durable. Oui.
Des maisons en chaume en terre.
En chaume en terre, c'est ça. Mm-hmm. Quelques maisons à briques adobe, mm-hmm. avec tôle au-dessus, mm-hmm. et d'autres à adobe, mais à chaume au-dessus.
Mais il y a quand même quelques bâtiments de l'État qui sont en matériaux durables.
Ah, c'est là, c'est le véritable casse-tête pour le milieu, parce que je peux vous dire présentement, Karine, que l'État n'a presque pas de bâtiments. Hein.
Ah bon? Donc, l'État
n'existe
pas à Bhouta?
L'État existe, mais il est locataire.
Ah bon?
Il occupe une maison de particulier, quoi.
Ah, ok.
Oui.
Ah, mais c'est rien
de... Le bureau du district avait été étendu pendant la rébellion. Mm-hmm. Et même les maisons du comité de district et d'autres agents de l'État avait été détruit pendant la même période là. Actuellement, il n'y a pas un bâtiment de l'État.
Il y a quand même des hôpitaux. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer jusqu'à Kisangani, par exemple, pour le soin médical.
Oui, merci. Là, je voudrais porter quand même la précision. Si je parlais du fait qu'il n'y a pas de bâtiment de l'État, ça c'est surtout du côté administration.
Administration, oui, tout à fait. Oui,
oui. Oui. Par rapport à la santé, il y a quand même un hôpital général de référence construit depuis les années 84, mm-hmm. et qui frappe par rapport à son état.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Effectivement, la plupart des gens qui arrivent ici sont aussi effrayés de voir cet hôpital parce que on dirait que ça n'existe pas ailleurs.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là?
avoir le type de construction, parce que justement, l'hôpital avait été construit par les Espagnols à l'époque.
Oui.
À l'époque de la Deuxième République, mm-hmm. avec des matériaux préfabriqués.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors, ailleurs, moi-même, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est quand même une particularité pour Bhouta. Un hôpital très bien construit.
Mm-hmm.
Bien qu'une partie des pavillons avaient été des pistes de termites parce que ces matériaux-là préfabriqués n'étaient pas très bien indiqués pour les milieux. Mais sinon, l'état extérieur, à voir seulement la position de l'hôpital, on est peu effrayé de voir ces bâtiments dans un milieu comme ça. C'est ça.
Bon, et s'agissant des universités, est-ce qu'on en compte également à Bouta?
Effectivement, nous avons une institution supérieure pédagogique qu'on appelle l'ISP de Bouta. C'est l'ancien ISP transféré de Kisangani à Bouta des années 86, quoi. Alors, depuis ce temps, il est là, ça marche.
Oui, l'université est là, ça marche. Alors, comment est organisée la vie à Bouta? Je veux dire, sur le plan social, hein? Là, c'est vrai qu'on est en... On a parlé de certains bâtiments, de l'université, mais sur le plan social, de quoi vit exactement la population à Bouta?
Oui, monsieur, la population vit surtout de l'agriculture. Parce que plus de 80% des habitants de la cité s'occupent de l'agriculture. Et même les fonctionnaires, avec cette période de soudure, ils ne doivent que recourir à la terre pour subvenir aux besoins des familles respectives. À part ça, il y a le petit commerce qui est assez bien organisé aussi. On trouve aussi des artistes, ceux qui taillent les œuvres d'art là. C'est ça. C'est ce que je pouvais vous citer. Il y a les pêcheurs effectivement. Et vous avez une femme voisin de la rivière où elle est.
Oui.
Bien que située à 125 km d'ici, mais c'est une rivière qui nous approvisionne sérieusement à poissons. Même la ville de Kisangani a bénéficié grandement. Oui, il y a beaucoup de pêcheurs là-bas.
Ouais, donc, il y a beaucoup de poissons, il y a... Bon,
mais, il y a la viande boucanée aussi.
La viande boucanée aussi. Mais vous avez parlé...
Pour dire que, il y a des plein de pêcheurs.
Oui.
Nous sommes à pleine forêt équatoriale.
Ah, ok.
Ouais.
Mais vous avez parlé de l'agriculture. On cultive quoi essentiellement à Bouta?
Ici, nous cultivons surtout les pâtis, les bananiers, on cultive les maïs, les légumes de toutes sortes, mais les top est occupé par le fait des manioc. Voilà. À part ça, on trouve des épinards, les amarates. Et c'est ça.
Alors, bon, par rapport à ici, par rapport à Kisangani, par rapport à aux autres villes, aux autres territoires de la province orientale, est-ce qu'il y a un accès facile?
Ah, c'est ça, la bête noire pour notre milieu, parce que la ville de Bouta est vraiment enclavée. La seule voie utilisée, c'est la voie aérienne, quoi. Parce que entre Bouta et Kisangani, les 325 km sont impraticables. Et si nous allons même à l'ouest, vers la province de l'Équateur, dans la ville voisine de Doumba, la route n'existe pas, Karim. Et même pour aller à Idiro, 500 km à l'est, c'est pratiquement impossible de le faire avec eux. C'est comme ça que l'unique moyen de transport qui est resté, c'est la voie aérienne qui nous relie surtout de l'est du pays, notamment la ville de Beni, qui nous approvisionne en produits manufacturés. La deuxième voie, s'il faut le dire, c'est le vélo, Karim.
Ah, le vélo, hein?
Le vélo.
À Kisangani sur 94,9.
Je rappelle, Patrick Iergu, que vous êtes président du conseil de gestion de la radio Ruby, et nous sommes donc à Bouta avec vous. C'est à Bouta qui est implantée cette radio, la radio Ruby qui est en partenariat avec Radio Okapi. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de la vie sociale, comment est organisée la vie sociale à Bouta. Et nous avons parlé de plusieurs tribus, notamment les Zande, les Boa, les Kéré, les Mbandi, les Logo et les Nande même, et beaucoup d'autres tribus, les Emma, les Lendo, qui sont autochtones. Par rapport à toutes ces tribus.
Les autochtones ici sont les Boa et les Azande. La limite, c'est juste à 4 km de la cité, entre les Boa et les Azande.
Les Boa et les Azande sont d'autres.
Les deux. défend les deux secteurs autochtones. Oui,
oui, alors, c'est quoi leur habitude alimentaire?
Oui, les habitudes alimentaires sont notamment le manioc, que je n'avais pas cité précédemment.
Mm-hmm.
Oui, et puis les bananes, mm-hmm. bananes platin.
Mm-hmm.
Oui, ils cultivent aussi des arachides, quoi.
Mm-hmm.
Oui, c'est ça. Ils mangent cela à la viande, la majorité de la viande boucanée qui va récolter, ajouter les poissons.
Oui, mais ce serait quoi leur plat favori? Chaque tribu a un plat favori comme ça, et ce serait quoi pour les Azandes et les
Bouts? Ah oui, ici pour les Azandes, il y a une sorte de pâte qu'on appelle le bakinde.
Bakinde?
Oui, c'est fait à base de manioc.
Uh-huh.
C'est ça, ils préfèrent consommer le manioc sous cette forme-là.
Oui.
Ou bien alors, on le consomme le manioc sous forme de bouillie. C'est ça. Ils accompagnent avec la viande, les poissons ou d'autres légumes.
Il n'y a pas de manioc, c'est comme le foufou ou bien c'est autre chose?
C'est autre chose, ce n'est pas le foufou, caribou.
Ah.
C'est la procédure là, pour fabriquer le bakinde, on utilise une sorte de lame pour tailler ça.
Mmh.
Alors après, on doit former des boules d'abord,
mmh.
avec les manioc frais, râpé, alors on constitue ça sous forme de boule,
mm-hmm.
qu'on peut juste maintenant pétrir sous forme de foufou.
Mm-hmm.
Soit on pétrit, soit on garde ça après quelques jours. À ce moment-là, ça change de goût, ça devient un peu aigre.
Ah.
Alors ça dépend de la préférence de l'un ou l'autre.
Mm-hmm, mm-hmm.
C'est ça.
Par rapport à la culture, et là je vais parler de certaines cérémonies, de certaines valeurs traditionnelles.
Oui, par rapport aux cérémonies, effectivement, on peut parler un peu du mariage.
Mm-hmm.
On peut parler aussi des danses culturelles.
Oui.
Mm-hmm. Des pratiques dans les milieux.
Mm-hmm.
Alors, quant au mariage, je pense qu'ici, il y a deux formes de mariage.
Mm-hmm. Lesquelles?
La première forme, c'est que soit le garçon rencontre une fille, et les deux s'attendent, se trouvent un compromis, et le garçon amène la fille chez lui. Alors c'est après que les parents vont entreprendre des démarches pour négocier et conclure le mariage, pour comment dire. Alors la deuxième forme, c'est alors que il faut d'abord solliciter la mère de la fille sans la voir.
Ah,
et là, c'est la mère des parents.
Mmh.
Oui, et entre les deux familles.
Mm-hmm.
Voilà. Mais cette forme-là est en train de régresser, de disparaître au fil du temps, Karine.
Oui, oui.
Mm. Oui. C'est ça, les deux formes de mariage dans les milieux.
Uh-huh. Et par rapport à ce qu'on demande à la dot, hein?
Ici, à titre de dot, on remet souvent, il y a les sacs de sel ne manquent jamais.
Oui, oui, oui. Ça, c'est comme
une lampe, une machette et une grosse casserole là. Obligatoirement la chèvre,
mm-hmm.
plus un peu d'argent.
Mm-hmm.
Et sans oublier alors une pièce d'habit pour la maman,
oui, oui.
pour la belle-mère,
mm-hmm.
quoi. Et complet costume, chaussures
pour le papa.
Le
Voilà. Oui, mais au niveau de l'argent, est-ce qu'il demande même des montants exorbitants ou c'est assez symbolique?
Là, c'est normalement, on ne fixe pas le montant.
Mmh.
Ça dépend de la valeur que vous accordez à la femme que vous voulez épouser.
Ah, ok.
Ah.
Ok, mais par rapport aux interdits, il y a toujours comme ça dans les tribus des interdits, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas manger ça, il faut pas passer par ci, il faut pas. Il y a toujours des interdits comme ça, hein?
Oui, par rapport aux interdits, effectivement, il y a par exemple des interdits alimentaires.
Oui.
Ici, nous notons par exemple, il y a des tribus où les femmes ne mangent pas d'escargot.
Ah, ok.
Oui. Et il y a aussi l'interdit général, aucune femme ne peut manger le serpent.
Ah.
Aucune femme ne peut manger aussi la chair de tortue.
Mm-hmm.
C'est ça que je peux retenir à titre d'exemple.
Oui, mais s'il arrivait que quelqu'un brise cet interdit, lui arrive malheur?
Bon, malheureusement, je n'ai pas analysé ça à fond.
Ok.
Mais c'est ce que nous vivons. Ici, dans les milieux, nous retenons deux grands temps. La première, on l'appelle Dipili.
Dipili.
Ça, c'est propre au Boa.
Uh-huh.
Alors, c'est une danse qui se fait souvent dans les soirées au clair de la lune.
Uh-huh.
Et parfois, en cas de retrait de deuil. Alors, les 10 piliers dansés par les bois.
Ah, ok, ok.
Alors, chez les Azambé, on parle de Bonindo.
De quoi?
Bonindo.
Bonindo.
Voilà.
Ok.
Alors là, c'est une danse très, très intéressante, très facile à danser, où on joue les gonds, et puis il y a un autre instrument qu'on appelle Ndara. Alors, ce sont des pièces d'arbres placées sur le tronc des bananiers.
Mm-hmm.
Et en jouant ça, alors ça donne un son là, très, très, très attrayant.
Mm-hmm. Alors, les dipiles, c'est souvent au moment de retrait de deuil. Et les bonibos, c'est quand est-ce que ça intervient généralement?
Non, c'est juste l'inverse.
Ah.
C'est les dipiles qui est dansé. Pendant le retrait des deuils.
C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire.
Vous avez renversé.
Non, moi j'ai dit les dipiles, c'est pendant le moment de retrait de deuil. Et les bonibos,
voilà.
Ça revient quand? Quand est-ce que...
Les bonibos, c'est pendant les petites festins.
Mm-hmm.
Ou encore, même pendant le retrait des deuils. Ou pendant les vestibules des chefs coutumiers.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ou à l'arrivée des honorables députés nationaux, humiliés, voilà, c'est pour les accueillir, quoi.
Alors, les autorités coutumières ou les chefs coutumiers, en fait, ils ont une forte part d'autorité à Bouta.
Oui, effectivement. Cependant, il y a une certaine nuance entre les deux tribus, les deux grandes tribus, les Moa et les Abandés.
Mmh.
On a semblé remarquer que la considération du chef coutumier est beaucoup plus importante chez les Azambé que chez les Boa.
Ah, ok.
C'est ça. À tel point que quand un chef coutumier Zambé, il tient l'ordre et s'exécute sans faille.
Ah.
C'est ça. C'est ce qui nous a amené à dégager cette nuance par rapport à la considération des chefs coutumiers dans les deux milieux.
Ah, ok. Bon, ben alors peut-être un dernier détail ou des salutations pour mettre un terme à cet entretien, pour conclure.
Oui, merci beaucoup Karine. Ici, chez nous à Bouta, par rapport aux difficultés que nous pouvons évoquer, il y a un problème de santé parce que le problème qu'on a au niveau de l'hôpital général, c'est celui de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques.
Mm-hmm.
Un grand hôpital général, mais sans groupe électrogène.
Mm-hmm.
Alors imaginez la suite.
Mm-hmm.
Il y a aussi un problème d'eau.
Mm-hmm.
Et bien qu'il y ait une ONG qui vient de s'installer, une ONG qui fabrique de l'hypochlorite de sodium pour désinfecter l'eau dans les ménages.
Mm-hmm.
Il y a quand même ces problèmes d'eau qui se posent parce que les maladies hydriques battent à corps et corps.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Alors, il y a un problème de courant dans les milieux parce que les infrastructures de la SNEL ont été pillées depuis les années 86, je crois. Non, 96. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pu réhabiliter ça.
Mm-hmm.
C'est ça les plus grandes difficultés du milieu.
Mm-hmm.
Et sinon, je peux terminer à saluer d'abord les collègues de la radio communautaire orientale de l'association Mangaza à Kisangani, sans oublier ceux de Nava Agio. Je salue aussi M. Cédric Mambola à Butembo. Et je salue également Katanabo à Pugna et Uyeni Michel Amagi.
Mm-hmm.
Merci.
Ok, merci beaucoup Patrick Hiervieux. Je rappelle que vous êtes le président du conseil de gestion de Radio Ruby. Et nous étions donc à Bouta avec vous. C'est trop implanté la Radio Ruby. Bouta qui est située à 325 km de la ville de Kisangani. Merci et au revoir.
Merci, à la prochaine fois.